Monsieur le supérieur général, excellences, mes chers confrères, chers fidèles, Monsieur l'abbé Duchalard nous propose de réfléchir sur les problèmes posés à la conscience catholique par le dernier concile. À ce sujet, il me semble qu'il y a deux sortes de questions qu'on peut se poser. On peut d'abord remarquer que l'enseignement du concile n'est pas conforme à l'enseignement de la tradition, l'enseignement habituel de l'Église. Et tout le monde peut faire cette constatation assez facilement. Il suffit de faire jouer le principe de non-contradiction que normalement tout le monde possède. Mais alors se pose une deuxième série de questions, une deuxième série de problèmes. Comment est-il possible qu'un concile puisse nous proposer un enseignement qui est en rupture avec l'enseignement de la tradition? Quelle sorte de concile est-ce? Quelle autorité a-t-il? Cette deuxième série de questions sur la nature du concile et son autorité est beaucoup plus difficile à cerner, parce qu'il s'agit là d'un problème nouveau et pour lequel nous sommes peu armés pour le résoudre. Si je me permets de signaler ce point en introduction, c'est pour vous faire remarquer que ce que je vais vous dire n'est peut-être pas indiscutable. Je vais tenter de vous donner une opinion, ce qui me semble être l'autorité du Concile actuel, mais du Concile Vatican II, mais il est possible peut-être de trouver d'autres explications. Tandis que sur la première série de questions, il me semble que là, il n'y a pas de doute possible. L'opposition de l'enseignement du dernier concile avec la tradition est facile à montrer d'une façon indubitable. Sur l'autorité du concile, on a deux sortes d'opinion. Il y a tout d'abord les papes actuels et la Rome actuelle qui prétend donner à ce concile une grande autorité. Et puis, il y a les traditionalistes qui cherchent à montrer que ce concile ne peut pas s'imposer. Voici quelques textes, quelques citations. Le pape Paul VI, vous connaissez sa lettre à Mgr Lefebvre du 29 juin 1975. Vous laissez invoquer à votre faveur le cas de saint Athanase. Il est vrai que ce grand évêque demeura pratiquement seul à défendre la vraie foi dans les contradictions qui lui venaient de toutes parts. Mais précisément, il s'agissait de la défense de la foi du récent concile de Nicée. Le concile fut la norme qui inspira sa fidélité, comme du reste chez saint Ambroise. Comment aujourd'hui quelqu'un pourrait-il se comparer à saint Athanase en osant combattre un concile, comme le deuxième concile du Vatican, qui ne fait pas moins autorité, qui est même, sous certains aspects, plus important encore que celui de Nicée? Pour le pape Paul VI, le concile Vatican II avait plus d'autorité, en tout cas pas moins d'autorité que le concile de Nicée. Le cardinal Ratzinger dit un peu la même chose dans son livre « Entretien sur la foi ». Il faut préciser avant tout que Vatican II est fondé sur la même autorité que Vatican I et que le concile de Trente, c'est-à-dire le pape et le collège des évêques en communion avec lui. À l'opposé de cela, vous avez par exemple une affirmation de Mgr Lefebvre, le 2 août 1976. Ce concile représente, tant aux yeux des autorités romaines qu'aux nôtres, une nouvelle Église, qu'ils appellent d'ailleurs l'Église conciliaire. Nous croyons pouvoir affirmer, en nous en tenant à la critique interne et externe de Vatican II, c'est-à-dire en analysant les textes et en étudiant les avenants et aboutissants de ce concile, que celui-ci, tournant le dos à la tradition et rompant avec l'Église du passé, est un concile schismatique. On juge l'arbre à ses fruits. Alors nous allons commencer, si vous voulez bien, par citer un certain nombre de documents qui sont utiles à connaître pour pouvoir déterminer l'autorité du Concile Vatican II. Et puis nous ferons ensuite une brève esquisse de réflexion théologique. En ce qui concerne les documents qui sont intéressants à noter, je vais les lire assez rapidement. Vous les trouverez dans les textes entiers dans les actes quand ils seront publiés. Vous avez d'abord le discours d'ouverture du Concile du pape Jean XXIII, le 11 octobre 1962, où il annonce justement le caractère pastoral du Concile, dont on a parlé déjà hier. Autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine. Autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faudra attacher beaucoup plus d'importance à cette forme et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration. On devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. Le pape Paul VI, dans l'ouverture de la deuxième session, le 29 septembre 1963, reprend la même, recite ces paroles du pape Jean XXIII, donc reprend cette même intention. Il le dit aussi dans une lettre qu'il adresse au cardinal Tisserand, le 12 septembre 1963, en renouvelant ces schémas, on a pris garde de mettre en valeur le caractère pastoral de ce concile. Il faut en effet que la doctrine certaine et immuable de la foi, qui a été déclarée ou définie par le magistère suprême de l'Église et par les précédents conciles œcuméniques, surtout le concile de Trente et le premier concile du Vatican, soit exposée de manière qui convienne à notre temps, et que les hommes de notre époque aient un accès plus facile aux vérités à embrasser et au salut à recevoir qui nous a été procuré par le Christ. C'est intéressant de voir les mots qui sont employés par le pape. Il dit que les vérités de la foi qui ont donc été déclarées ou définies par le magistère suprême de l'Église précédent doivent être exposées au Concile du Vatican. Donc il fait bien une distinction entre les définitions qui ont eu dans le magistère précédent et l'exposition qui se fait dans le Concile Vatican II. Vous avez encore une déclaration donc, du cardinal Tisserand, le 15 septembre 1964. Il faut se rappeler que ce concile œcuménique, ainsi que le souverain pontife Jean XXIII l'a affirmé à de nombreuses reprises, n'a nullement en vue de statuer sur de nouveaux points de doctrine. Sa finalité propre est le zèle pastoral et que le zèle pastoral de l'Église prenne un nouvel essor. Vous avez la notification, le monitum, fait par le secrétaire général du Concile, Mgr Pericles Felici, le 16 novembre 1964, où il reprend la notification de la déclaration, il reprend plutôt la déclaration de la commission doctrinale du 16 mars 1964, et ce texte est bien connu. Il a été demandé quelle doit être la qualification théologique de la doctrine qui est exposée dans le schéma De Ecclesia et qui est soumise au vote. À cette question, la commission doctrinale a donné la réponse suivante. Comme il va de soi, le texte du Concile est toujours à interpréter selon les règles générales connues de tous. La commission doctrinale renvoie à sa déclaration du 6 mars 1964, dont voici le texte. Compte tenu de la façon de faire des conciles et de la fin pastorale qui est celle du présent concile, celui-ci définit comme devant être tenu par l'Église les points seulement qu'il aura expressément déclarés comme tels. Quant aux autres choses qui sont proposées par le concile, comme elles représentent la doctrine du magistère suprême de l'Église, tous et chacun des fidèles doivent les recevoir et les admettre selon l'esprit du concile lui-même, tel qu'il ressort soit de la matière en cause, soit de la façon de s'exprimer, selon les normes de l'interprétation théologique. Enfin, vous avez le discours de clôture du pape Paul VI, où il dit que le concile n'a pas voulu se prononcer sous forme de sentence dogmatique extraordinaire. Donc le 7 décembre 1965. Un peu plus tard, le 12 janvier 1966, le même pape Paul VI déclare que le Concile a évité de proclamer de manière extraordinaire des dogmes affectés de la note d'infaillibilité. Certains se demandent quelle est l'autorité, la qualification théologique qu'a voulu donner à son enseignement un concile qui a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles engageant l'infaillibilité du magistère ecclésiastique. La réponse, nous la connaissons. Rappelons-nous la déclaration conciliaire du 6 mars 1964, répétée le 16 novembre 1964. Étant donné le caractère pastoral du concile, il a évité de prononcer d'une manière extraordinaire des dogmes comportant la note d'infaillibilité. Mais il a muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire est manifestement authentique, doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles, selon l'esprit du Concile, concernant la nature et les buts de chaque document. Ça, c'est donc la déclaration du pape Paul VI, le 12 janvier 1966. Parmi les documents qui sont utiles à consulter pour déterminer l'autorité du Concile, vous avez aussi l'intervention de Mgr Lefebvre, lue au Concile le 1er décembre 1962. Voici comment Mgr Lefebvre présente cette intervention dans le livre J'accuse de Concile. L'ambiguïté de ce concile apparut dès les premières séances. Pour quel but nous sommes-nous réunis? Le discours du pape Jean XXIII avait bien parlé de la manière dont il entendait orienter le concile vers un exposé pastoral de la doctrine. Mais l'ambiguïté demeurait et l'on percevait la difficulté, à travers les interventions et discussions, de savoir ce que voulait le concile. D'où ma proposition du 27 novembre, que j'avais déjà soumise à la commission centrale préconciliaire. Donc, la proposition de Mgr Lefebvre consistait à distinguer dans les schémas une partie doctrinale qui serait définie d'une façon précise pour les théologiens et puis une partie plus pastorale qui serait une sorte de catéchisme pour l'ensemble des fidèles. Cette proposition fut l'objet de violentes oppositions, dit Mgr Lefebvre. Le concile n'est pas un concile dogmatique, mais pastoral. Nous ne voulons pas définir de nouveaux dogmes, mais exposer la vérité pastoralement. Les libéraux et progressistes aiment vivre dans un climat d'ambiguïté. Clarifier la finalité du concile les agaçait souverainement. Ma proposition fut donc rejetée. Enfin, vous avez un certain nombre de déclarations qui peuvent être utiles aussi pour déterminer l'autorité du concile. Mgr Butler, un évêque anglais, libéral, très actif au concile, a déclaré « Il n'y a aucune proposition de Vatican II, sauf là où le concile cite une définition déjà infaillible, qui soit infaillible en elle-même. » Trouvez cette citation et les autres dans le livre de Michael Davis, sur le deuxième concile du Vatican et la liberté religieuse. Le père Doranzo écrit dans l'Osservatore Romano le 12 septembre 1972 « Parmi les exemples du magistère extraordinaire non infaillible, il y a les différents documents de Vatican II et la plupart des grandes encycliques de Léon XIII à Paul VI. » Le père Joseph Créant, dans le dictionnaire de théologie catholique en langue anglaise, attire l'attention sur ce que le Concile a accepté le fait qu'il a produit ses enseignements sans définitions infaillibles. En terminant les décrets qu'il a, la formule de tous les décrets du Concile, par les mots « Decernimus ac statuimus », nous décrétons et établissons, sans employer le mot « definimus ». Donc, le Concile, volontairement, tous les documents du Concile, on n'a pas mis que c'était des définitions, c'était des déclarations Enfin, le William Marshner, dans un article de la revue Faith and Reason, montre et déclare « Je m'associe à tous les autres théologiens pour dire que le nouveau terrain est un enseignement non infaillible. Je veux signaler la possibilité que l'enseignement du Concile soit faux. » Alors, à partir de ces déclarations, nous allons faire une petite réflexion théologique pour essayer de voir de quelle autorité peut-on donner à ce Concile. Le magistère de l'Église possède deux modes qui sont protégés par l'infaillibilité. Ce sont les jugements solennels et le magistère ordinaire et universel. On a vu tout à l'heure, l'abbé Marcille nous a rappelé cela, il nous a rappelé le texte du Concile Vatican I qui nous indique ces deux modes infaillibles du magistère de l'Église. On a ensuite un autre mode de magistère de l'Église, qui a une autorité moindre, qu'on appelle le magistère authentique de l'Église, qui n'est pas infaillible de soi. Nous allons d'abord examiner si le Concile peut se réclamer d'un de ces trois modes du magistère. Peut-il se réclamer de l'autorité des jugements solennels ? Peut-il se réclamer de l'autorité du magistère ordinaire universel de l'Église ? Peut-il se réclamer du magistère authentique de l'Église ? Puis nous verrons que, à mon avis, il ne peut se réclamer d'aucun de ces formes du magistère. La première opinion, disant que le Concile a donné des jugements solennels, est défendue par un petit nombre de personnes. On les trouve exposées par certains cédévacantistes, en particulier dans les revues Sacerdotium et Subtum Presidium. Donc l'argument est d'essayer de montrer que puisque le monitum du secrétaire général du Concile que nous avons lu tout à l'heure disait, compte tenu de la façon de faire des conciles et de la fin pastorale du présent Concile, celui-ci définit comme devant être tenu par l'Église les points seulement qu'il aura expressément déclarés comme tels. Donc ces théologiens essayent de dire qu'il y a eu des points qui ont été expressément déclarés comme des définitions. Alors en particulier, ils citent la liberté religieuse, où effectivement on trouve une certaine définition de ce qu'est la liberté religieuse. Et le Concile affirme que cette doctrine a ses racines dans la révélation divine. Toutefois, il me semble que cette opinion est dépourvue de toute probabilité, n'est pas défendable. D'abord, parce que l'intention des papes qui ont dirigé le Concile, était de ne pas engager leur infaillibilité à ce niveau des jugements solennels. Nous avons cité donc les textes en particulier du pape Paul VI, disant que le Concile a évité de promulguer des définitions dogmatiques solennelles, engageant l'infaillibilité du magistère ecclésiastique. Pour que le pape ou un concile fasse un jugement solennel, il faut qu'il engage sa suprême autorité. Or, précisément, le pape et les autorités du concile ont évité d'engager cette suprême autorité. Ils l'ont dit explicitement. On peut le voir aussi d'après les termes qui en sont employés. Nous avons vu tout à l'heure le pape Paul VI, dans une lettre au cardinal Tisserand, disant que le concile allait exposer une doctrine qui avait été préalablement définie. Donc, il s'agit ici le mot « exposer » se réfère au magistère ordinaire de l'Église, tandis que le verbe « définir » se réfère au magistère extraordinaire par jugement solennel. Donc, le pape a bien manifesté par là qu'il voulait engager seulement le magistère ordinaire de l'Église, mais pas le magistère extraordinaire par jugement solennel. On pourrait ajouter à cela que le code de droit canon de 1917 spécifie bien qu'aucune chose ne doit être comprise comme déclarée ou définie dogmatiquement, à moins que cela ne soit manifestement établi. Il faut que ce soit clairement établi pour pouvoir dire qu'il y a un jugement solennel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas clairement établi, puisqu'il n'y a que quelques théologiens qui le défendent. On pourrait encore ajouter que les autorités du Vatican, si elles pensaient que l'Église avait engagé son infaillibilité par jugement solennel dans le Concile, auraient demandé à Mgr Lefebvre une rétractation publique de ses erreurs, alors qu'elle ne lui a demandé que l'obéissance. Lorsqu'il y a eu les discussions avec Rome, et puis le protocole d'accord, il n'y a pas eu de renoncement à des hérésies. Et la Fraternité Saint-Pierre, dans les accords qui lui a été passés, il n'y a pas eu non plus de rétractation demandée sur des points de doctrine. Donc il paraît certain que le Concile n'a pas voulu engager l'infaillibilité par mode de jugement solennel. La deuxième opinion dit que le Concile représente le magistère ordinaire universel. Cette opinion est défendue, on le sait, par les partisans de la thèse de Cassis Iacum. L'argumentation est simple. Le magistère ordinaire est celui des évêques en communion avec le pape, comme disait tout à l'heure l'abbé Marcille. Or, au Concile se trouvaient les évêques du monde entier en communion avec le pape. Par conséquent, le Concile est l'enseignement du magistère ordinaire universel. Vous savez que les partisans de la thèse de Cassis Iacum ont, à partir de cette prémisse, ont tiré deux conclusions différentes. D'abord, ils ont prétendu montrer par là que le pape n'était pas pape au moment du Concile. Et maintenant, ils prétendent, certains d'entre eux, comme l'abbé Lucien, que l'on doit accueillir l'enseignement du Concile dans tous ces points. Alors, on a essayé d'argumenter contre cette opinion, à savoir que le Concile représente le magistère ordinaire universel, en disant que le magistère ordinaire de l'Église, pour être universel, doit être universel non seulement dans l'espace, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des évêques, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire s'exercer pendant une certaine durée. Par conséquent, l'enseignement d'un concile, qui est un enseignement ponctuel, qui se place à un moment du temps, ne pourrait pas donner le magistère ordinaire universel. Il n'y aurait pas la continuité dans le temps. L'abbé Lucien a répondu à cette argumentation dans son livre « L'infaillibilité du magistère ordinaire et universel de l'Église ». Je ne vais pas entrer dans cette polémique, car il me semble qu'il y a des moyens plus simples de montrer que le Concile Vatican II ne représente pas le magistère ordinaire universel. Il me semble que l'abbé Lucien a en partie raison sur le fait que, normalement, comme disait l'abbé Marcy tout à l'heure, l'enseignement de l'ensemble des évêques, chacun dans leur diocèse, à un moment donné, est bien la représentation du magistère ordinaire universel. Il n'y a pas besoin, sauf cas de crise, d'obscurcissement du magistère ordinaire, il n'y a pas besoin d'une continuité dans le temps pour être assuré de l'infaillibilité. On a aussi essayé d'argumenter contre cette opinion, à savoir que le Concile représente le magistère ordinaire universel, par le fait que le Concile, il y a eu un certain nombre de documents au moins, qui n'ont pas été prouvés à l'unanimité des voix. Par exemple, la déclaration sur la liberté religieuse n'a pas été approuvée par 70 pères conciliaires. Cet argument ne me paraît pas très solide, parce que d'abord, 70 pairs sur 2000, c'est quand même une infime minorité. Plus ces 70 pairs étaient contre l'avis du pape. Et puis, depuis le concile, ces 70 pairs, ils sont tous morts. Et actuellement, on se trouve devant l'ensemble des évêques qui acceptent tous, au moins tous les évêques résidentiels, les évêques qui ont une juridiction, acceptent tous l'enseignement du Concile, au moins extérieurement. Il me semble qu'on peut mettre deux arguments plus solides pour montrer que le magistère du Concile n'est pas le magistère ordinaire universel. Le premier, qui a été déjà expliqué tout à l'heure par l'abbé Marcille, je ne vais donc pas m'attarder là-dessus, c'est que le magistère ordinaire universel est l'enseignement des évêques dispersés. Je vais vous donner quelques textes. Par exemple, le pape Pie IX le déclare dans la lettre qui est fréquemment citée, ce sujet du magistère ordinaire universel, une lettre à l'archevêque de Munich du 21 décembre 1863. Cette soumission qui doit se manifester par l'acte de foi divine doit aussi s'étendre à ce que le magistère ordinaire de toute l'Église, répandu dans l'univers, transmet comme divinement révélé. Le pape Pie IX, lorsqu'il décrit le magistère universel, ordinaire universel, parle de l'Église répandue dans l'univers. Lors du Concile Vatican I, le 6 avril 1870, le Monseigneur Martin, qui intervenait au nom de la Députation pour la foi, pour expliquer le mot « universel » inséré dans le texte que l'on a lu, qu'a lu tout à l'heure l'abbé Marcille sur le magistère ordinaire universel, il explique le mot « universel » en disant « ce mot signifie à peu près la même chose que le mot employé par le Saint-Père dans la lettre apostolique que nous venons de citer, à savoir le magistère de toute l'Église dispersé sur la terre. » C'est pas le fait que les évêques soient dispersés ou que les évêques soient réunis, ce n'est pas une différence accidentelle, comme le dit l'abbé Lucien. L'abbé Lucien dit que le fait que les évêques soient dispersés ou qu'ils soient réunis, c'est une différence accidentelle. Par conséquent, s'ils sont infaillibles en étant dispersés, ils vont être encore infaillibles lorsqu'ils sont réunis. Ce n'est pas une différence accidentelle. Lorsque les évêques sont dispersés, eh bien, s'ils enseignent tous la même chose, ça ne peut être qu'en raison de la tradition commune dans laquelle ils puisent, et puis, comme l'a dit l'abbé Marcille tout à l'heure, de l'assistance du Saint-Esprit, l'assistance commune. Tandis que s'ils sont réunis, on peut trouver d'autres raisons à l'unanimité de leur enseignement, en particulier certaines pressions morales qui sont exercées sur eux, qu'il est beaucoup plus facile d'exercer lorsqu'ils sont réunis que lorsqu'ils sont dispersés. C'est ce qui explique, comme l'a dit tout à l'heure l'abbé Marcille et comme on l'a vu hier dans l'exposé de l'abbé Simoulin, que les évêques dispersés avant le concile ont donné un enseignement qui était manifestement différent de l'enseignement qu'ils vont donner lors du concile, notamment sur la liberté religieuse, sur l'œcuménisme. On peut trouver une confirmation de ce fait que les évêques réunis ne donnent pas un magistère ordinaire, ne forment pas le magistère ordinaire universel dans l'enseignement qui est classique chez les théologiens, à savoir que les conciles ne sont infaillibles que dans leur définition. Dans ce qui est les autres parties des conciles, qui ne sont pas les définitions, on dit habituellement que les conciles ne sont pas infaillibles. C'est par exemple ce que dit le dictionnaire de théologie catholique à l'article « Infaillibilité du pape ». C'est en ce sens que les théologiens disaient habituellement que cela seul tombe réellement sous la définition conciliaire que le concile veut réellement y comprendre ou veut réellement définir, d'après le but qu'il se propose, les expressions qu'il emploie et les erreurs qu'il veut formellement condamner. D'où l'on concluait habituellement qu'il ne faut comprendre dans la définition ni les arguments ou raisons qui ne sont point expressément imposés à l'assentiment des fidèles, ni les motifs de la définition, ni les choses incidemment dites ou louées dans le concile, ni ce qui est dit incidemment dans un texte conciliaire, sans que le Concile veuille aucunement le comprendre dans la définition ou l'imposer à la croyance ou à l'assentiment formel des fidèles. Si les conciles étaient l'expression du magistère ordinaire universel, en dehors des définitions, on devrait aussi admettre ce qu'ils disent de manière infaillible. On peut trouver un certain nombre de déclarations de conciles qui sont en dehors, qui ne sont pas des définitions, et qui continuent d'être disputées dans l'Église. Par exemple, le quatrième du concile du Latran et le premier concile du Vatican disent que les anges ont été créés en même temps, simul, que la création corporelle. Mais les théologiens discutent encore sur la valeur de ce mot et certains nient la simultanéité dans le temps. Certains disent que les anges ont été créés avant, dans le temps, la création corporelle. Certains disent que les anges ont été créés avant, dans le temps, la création corporelle. Vous avez aussi le cas typique du Concile de Florence avec son décret pour les Arméniens. Le décret pour les Arméniens énumère un certain nombre d'enseignements qui continuent de discuter ou même qui ont été contredits dans la suite. Par exemple, oui, il énumère, en parlant du sacrement de l'ordre, les sept ordres majeurs et mineurs. Mais l'opinion qui enseigne que les ordres mineurs ne sont pas des sacrements continue d'être défendue par beaucoup de théologiens. Il me semble que c'est l'opinion même majoritaire maintenant. Si le Concile de Florence était infaillible, on ne devrait plus discuter la question. Alors, au sujet de cette déclaration, de ce décret pour les Arméniens du Concile de Florence, certains ont dit que ce décret est une instruction pratique. Ce n'est pas un enseignement doctrinal, c'est une déclaration pratique. Le pape enseigne aux Arméniens le rite latin, il leur décrit ce qu'on fait à Rome. On n'entend pas imposer cela. Mais la plupart des théologiens, du moins un bon nombre, comme le cardinal Van Rossum, Vasquez, Suarez, le cardinal Billiot, le père Galtier dans le DTC et d'autres, disent que c'est bien un décret doctrinal. Nous aurions donc là un décret doctrinal d'un concile qui ne serait pas infaillible, puisqu'on continue à le discuter. Bon, il y a d'autres enseignements de ce décret qui ont été discutés par la suite, comme par exemple le fait que le décret pour les Arméniens dit que le sacrement de l'ordre a pour matière la correction des instruments. Ou encore, que la matière du sacrement de l'extrême-onction est l'huile d'olive bénite par l'évêque. Or, le pape Clément VIII, un peu après, a approuvé comme matière de ce sacrement l'huile des infirmes bénite par un simple prêtre dans l'Église grecque. Même si on ne pouvait pas donner, bon, je sais, ces exemples peuvent peut-être être discutés, même si on ne pouvait pas donner avec certitude des enseignements de concile qui soient erronés, en dehors des déclarations infaillibles toujours, en dehors des jugements solennels, ça ne voudrait pas dire que cela soit impossible. Ce n'est pas parce que dans le passé il n'y a pas eu d'erreur qu'il ne pourrait pas y en avoir dans l'avenir. On a par exemple le cas analogique, les béatifications. Les béatifications ne sont pas couvertes par l'infaillibilité, c'est ce qu'on dit habituellement. Les canonisations le sont, mais les béatifications ne le sont pas. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait trouver dans le passé des exemples de béatifications qui puissent être remises, qui puissent être discutées. Mais ça veut dire que s'il est possible qu'un jour, un pape se trompe, il est peut-être que la béatification du fondateur de l'Opus Dei, par exemple, est le premier cas où on puisse discuter et remettre en cause une béatification. On pourrait ajouter une deuxième raison pour dire que le Concile Vatican II ne représente pas le magistère ordinaire et universel de l'Église. La première raison, c'était qu'il fallait que les évêques soient dispersés pour pouvoir exercer leur magistère ordinaire universel. La deuxième raison, c'est que la matière de l'enseignement doit être une vérité concernant la foi ou les mœurs, ou au moins une vérité qui soit liée nécessairement à la foi et aux mœurs. Or, comment se manifeste que la matière de l'enseignement est une vérité de foi ou de mœurs, ou liée nécessairement à la foi ou aux mœurs? Par le fait que cet enseignement est présenté comme une vérité à croire de manière définitive. Voici par exemple ce que dit le Père Salaverry dans la somme de théologie de la BAC. Les évêques successeurs des apôtres sont infaillibles lorsque, d'accord entre eux et sous le pontife romain, ils imposent aux fidèles une doctrine à tenir de manière définitive, soit en concile, soit hors du concile. Donc, soit au concile, c'est dans les cas des jugements solennels, soit en dehors des conciles, c'est le magistère ordinaire universel, mais il faut que les évêques qui enseignent disent que cette doctrine est à croire de manière définitive. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est quelque chose que nous pensons aujourd'hui, mais peut-être que demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Or, c'est précisément ce lien nécessaire avec la foi catholique, d'où découle l'obligation d'accepter l'enseignement, qui fait défaut dans l'enseignement du Concile Vatican II. Mgr Lefebvre n'a jamais caché son opposition à certains textes du Concile, par exemple à la liberté religieuse. Or, jamais les autorités romaines ne l'ont accusé de se tromper sur des questions dogmatiques. Lorsque Mgr Lefebvre a présenté sa difficulté, par exemple, au pape Paul VI, pape Paul VI a dit que ce n'est pas le moment de discuter ces questions-là. Si vraiment le Concile avait voulu donner un enseignement qui était lié à la foi et aux mœurs, il aurait dû lui dire ben, « Vous devez accepter, c'est un enseignement certain ». Il ne suffit pas que le Concile présente ses doctrines comme fondées dans la révélation, comme c'est le décret sur la liberté religieuse, comme conforme à la révélation, comme gardé ou transmis par l'Église. Il faudrait qu'il précise que cet enseignement est immuable et lié nécessairement à la révélation divine. Donc, si vous voulez, pour conclure pour cette deuxième opinion, tant en raison de l'absence de dispersion des évêques, que de l'absence de lien nécessaire et immuable de l'enseignement donné avec la révélation, le Concile Vatican II ne peut pas prétendre à l'infaillibilité du magistère ordinaire universel de l'Église. Alors, la troisième opinion dit que le Concile représente le magistère authentique de l'Église. En dessous du magistère infaillible, par jugement solennel ou par magistère ordinaire universel, on trouve ce qu'on appelle le magistère authentique. Il semble que ce soit l'opinion qui est défendue par les autorités romaines. Par exemple, le pape Paul VI, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dit que le Concile a muni ses enseignements de l'autorité du magistère ordinaire suprême. Ce magistère ordinaire et manifestement authentique doit être accueilli docilement et sincèrement par tous les fidèles, selon l'esprit du Concile, concernant la nature et les buts de chaque document. Le magistère authentique de l'Église, ce n'est pas une nouveauté conciliaire, cette expression existait déjà avant le Concile. Les théologiens disaient, déjà avant le Concile, qu'on doit l'accueillir, même si ce n'est pas donc un enseignement infaillible, on doit l'accueillir avec un assentiment religieux intérieur. Voici la thèse de Salaverry dans la somme de théologie de la BAC. On doit un assentiment interne et religieux aux décrets doctrinaux du Saint-Siège, approuvés authentiquement par le souverain pontife. Les décrets dont il s'agit sont les enseignements donnés par le pontife romain en tant que docteur authentique, universel et suprême, mais d'une autorité inférieure à l'infaillibilité. On retrouve cette doctrine dans Franz Nain, son livre sur la tradition divine, dans Billot, dans la plupart des bons théologiens depuis plus d'un siècle. Voici un résumé de la pensée de Franz Nain. L'Église, dit-il, peut prescrire ou prohiber des opinions théologiques sans les imposer infailliblement pour assurer la sécurité de la doctrine. La vérité de ces opinions n'est pas infaillible, mais leur sécurité l'est. C'est-à-dire que si on les suit, on se trouve en sécurité. Il faut donc, dit le cardinal Franz Nain, il faut donc distinguer l'autorité d'infaillibilité et l'autorité de providence doctrinale. Cette dernière s'exerce quand le pape n'engage pas son autorité dans toute son intensité ou sans définir. On peut prendre l'exemple des béatifications, dit-il. Dans ce cas, on doit un assensus religieux. Le silence révérentiel étant insuffisant, il ne suffit pas de ne pas critiquer, on doit assentir à ce qui nous est enseigné. On doit croire, à cause de l'autorité qui promulgue l'enseignement, que cet enseignement est sûr. Alors, le nouveau code de droit canon a exprimé sa pensée sur l'autorité du magistère authentique de l'Église de cette façon. Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le pontife suprême ou le collège des évêques énonce en matière de foi ou de mœurs, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif. Donc il semble bien que ce soit ça, cette autorité-là, que les autorités de l'Église actuelle veulent donner au Concile Vatican II. Puisque ce magistère simplement authentique de l'Église n'est pas infaillible, l'assentiment qu'on lui donne n'est pas absolu. Il est seulement moralement certain et conditionnel. On doit pouvoir, dans certains cas, ne pas donner son assentiment. Cette possibilité a été étudiée par les auteurs, même avant le Concile. Voici par exemple ce que dit Straub. Il dit que l'on peut dissentir, donc si on pense que l'enseignement qui nous est donné n'est pas vrai, on peut dissentir, mais qu'on ne doit pas manifester son désaccord en public. Il faut garder un silence respectueux, exposer avec modestie sa difficulté au tribunal ecclésiastique. Chopin pense que si on a des raisons sérieuses de douter, il est permis de faire une recherche en privé, et si le doute persiste, de le présenter devant la congrégation, mais sans suspendre son assentiment. Si les raisons contre le décret sont tout à fait évidentes, cas que Chopin estime à peu près chimérique, il pense que l'on peut s'en tenir à un silence respectueux. Salieri dit qu'on doit continuer à considérer le décret comme probable, même si on pense qu'il est faux. Donc on voit qu'il est dans cette opinion, il a place à une certaine contestation du Concile, mais une contestation limitée, respectueuse et il me semble que ce n'est pas la véritable solution. C'est pourquoi je vais essayer de vous montrer que le Concile de Vatican II ne peut pas prétendre à cette autorité du magistère authentique de l'Église. Certes, on trouve bien la cause efficiente du magistère authentique, le pape et les évêques. Mais on n'y trouve pas la cause matérielle, qui est la transmission du dépôt révélé. Le magistère est fait pour nous transmettre les dépôts révélés. Or, justement, au Concile Vatican II, les auteurs du Concile ont eu une autre intention que de transmettre le dépôt révélé. C'est ce que nous déclare, par exemple, le cardinal Ratzinger, dans son livre Entretien sur la foi, Vatican II avait raison de souhaiter une révision des rapports entre l'Église et le monde, car il y a des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l'Église, peuvent, une fois examinées et amendées, trouver leur place dans sa vision. En ces années-là, on a satisfait à ce devoir. Par conséquent, selon le cardinal Ratzinger, il y a un certain nombre de valeurs qui sont nées hors de l'Église, c'est donc pas le dépôt de la révélation, qui ont été introduites dans l'Église. C'était la tâche du Concile Vatican II. On trouve des textes dans le Concile lui-même qui l'expriment, cela. Par exemple, dans Gaudium et Spes, le Concile se propose avant tout, de juger à cette lumière de la foi les valeurs les plus prisées par nos contemporains et de les relier à leur source divine. Car ces valeurs, dans la mesure où elles procèdent du génie humain, qui est un don de Dieu, sont fort bonnes. Donc, le Concile avait avant tout pour propos de juger les valeurs du monde et de les relier à leur source divine, donc de les introduire dans l'enseignement de l'Église. Dans le décret Presbyterorum Ordinis, le Concile décrit ainsi son propre but comme un but pastoral de renouvellement intérieur de l'Église, de diffusion de l'Évangile dans le monde entier et de dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Si le Concile avait pour but de dialoguer avec le monde, c'est qu'il avait l'intention de recevoir quelque chose de lui. Dans son discours d'ouverture de la deuxième session, le pape Paul VI met encore le dialogue avec le monde contemporain parmi les grands buts du Concile. Le Concile travaillera à jeter un pont vers le monde contemporain. Vous avez voulu tout d'abord vous occuper non pas de vos affaires, mais de celles de la famille humaine et engager le dialogue, non pas entre vous, mais avec les hommes. Nous avons entendu parler hier de l'aggiornamento. Dans son livre sur l'étrange théologie de Jean-Paul II et l'esprit d'Assise, le professeur Dorman explique que donc cet aggiornamento, tel qu'il est décrit par le cardinal Wojtyla, donc avant son élévation pontificale, mais après le concile, dans plusieurs études qu'il a faites sur le concile, le cardinal Wojtyla expliquait ce qu'il attendait par aggiornamento, donc il traduisait par accommodata renovatio. Cet accommodata renovatio était, dit-il, un programme complet de rénovation de l'Église, qui réalise une double adaptation, adaptation de l'Église d'avant le concile à l'Église conciliaire et de l'Église conciliaire au monde d'aujourd'hui. Donc il s'agissait bien, dans l'esprit des autorités du concile, d'introduire dans l'Église un certain nombre de valeurs, de doctrines extérieures à l'Église. C'est ce qu'on a entendu hier, dans l'exposé du professeur Dorman, ce qu'il exprimait par l'enrichissement de la foi. La foi est enrichie par ses valeurs venues de l'extérieur de l'Église. Or, précisément, ce n'est pas le rôle du magistère de transmettre, d'introduire dans l'Église des valeurs qui sont nées hors d'elle. Le rôle du magistère est de transmettre les dépôts révélés qu'il a reçus de notre Seigneur. Car le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Ce que disait le Concile Vatican I. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dit que son enseignement, il l'a reçu de son Père. Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais celle de celui qui m'a envoyé. Celui qui parle de soi-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique. Et il n'y a pas en lui d'imposture. Pour être véridique, il faut chercher la gloire de celui qui nous a envoyé. Transmettre l'enseignement que l'on a reçu. Si on ne fait pas cela, on n'est plus véridique. Pour citer d'autres textes de notre Seigneur, « Je n'ai point parlé de moi-même, car le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et ce que je dois enseigner. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. » Si notre Seigneur s'est contenté de transmettre ce qu'il a reçu de son Père, l'Église ne peut pas faire autre chose plus que notre Seigneur. Elle doit transmettre ce qu'elle a reçu. Pour réciter des actes des papes, où ils nous décrivent justement le magistère comme étant le service de transmission du dépôt révélé. J'en citerai qu'un, l'encyclique Humani Generis de Pie XII. Dieu, donc qui est la dernière, on peut dire, le dernier grand acte du magistère préconciliaire, Dieu a donné à son Église, avec ses sources que nous avons dites, un magistère vivant pour éclairer et dégager ce qui n'était contenu dans le dépôt de la foi que d'une manière obscure et pour ainsi dire implicite. Donc le magistère de l'Église est fait pour travailler sur le dépôt de la foi. On nous objectera peut-être que nous n'avons pas à juger ce qui est dans le domaine de la révélation divine et ce qui est en dehors. C'est pas à nous de juger ce qui fait partie du dépôt de la foi, ce qui n'en fait pas partie. Par conséquent, si aujourd'hui le pape nous dit que le libéralisme fait partie du dépôt de la foi, eh bien, on doit le croire. Ces arguments vaudraient peut-être si ce qui nous était proposé par le magistère était couvert par l'infaillibilité. On n'aurait pas le droit de se poser ce genre de questions. Mais ici, il s'agit, nous l'avons montré, d'un magistère non infaillible. Et donc admis qu'on puisse se poser des questions sur son exercice. Ce que nous avons fait, et l'examen de la question nous pousse à conclure que les représentants du magistère ont abusé de leur autorité, et en conséquence que leur enseignement est dépourvu d'autorité. On pourrait encore nous objecter que le Concile n'a pas eu que pour but d'accueillir les erreurs libérales, d'introduire dans l'Église des erreurs libérales. On a donné d'autres buts au Concile. Certes, mais comme le dit l'adage scolastique, « Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defectu ». Le bien requiert l'intégrité, un seul défaut rend la chose mauvaise. Ici, le mal n'est pas un mal accidentel. L'essence même du magistère est de transmettre la révélation. Introduire dans son objet autre chose, c'est changer l'essence du magistère. Donc il me semble qu'on peut dire, en conclusion, que le magistère conciliaire n'est pas le magistère catholique, c'est autre chose. En conséquence, il ne saurait avoir l'autorité du magistère catholique, pas même l'autorité d'un magistère authentique. Quelle autorité reconnaître à ce magistère alors ? Eh bien, celle d'un magistère purement humain. L'Église n'est pas assistée pour introduire dans son sein des vérités qui sont nées hors d'elle. Elle est assistée pour transmettre le dépôt révélé. Par conséquent, le Concile, ayant eu pour tâche d'introduire des vérités extérieures, ne jouit que d'une autorité humaine. Comme on peut remarquer qu'il y a des erreurs dans leur enseignement, on peut se dire que ces experts en humanité, qui étaient les pères conciliaires, n'étaient pas si experts que cela, et que leur autorité, même humaine, n'est pas si importante que cela. peut donc dire que le concile ne jouit d'aucune autorité, ni divine, n'étant pas l'expression du magistère de l'Église catholique, ni humaine, puisqu'il a eu dans son sein des experts qui n'étaient pas très experts, et qu'il mérite non la confiance, mais la défiance de tous les bons catholiques. Nous avons donc examiné toutes les opinions possibles, il me semble, sur l'autorité du Concile. Les deux premières opinions qui donnent au Concile une autorité infaillible me paraissent certainement fausses. Le Concile n'a pas donné jugement solennel, il ne peut pas non plus s'autoriser du magistère ordinaire universel. La troisième opinion qui attribue au Concile l'autorité du magistère authentique de l'Église jouit d'une certaine vraisemblance. Mais il me semble plus probable, plus vrai, de dire que le concile, le magistère conciliaire, ne jouit d'aucune autorité, ni divine, ni humaine. On peut remarquer, en terminant, que ce magistère conciliaire continue d'être exercé par les représentants de la hiérarchie, par les papes, par la quasi-totalité des évêques depuis 30 ans. Dans la mesure où les papes et les évêques se réfèrent au concile comme ayant une autorité, ils exercent le magistère conciliaire. Le magistère conciliaire, consiste à dire le concile a une autorité, et nous parlons au nom de ce concile. En conséquence, tous les actes du magistère, même tout ce qui est venu après le concile, doivent mériter, a priori, non la confiance, mais la défiance, non pas un préjugé favorable, mais un préjugé défavorable. Il me semble qu'on se tromperait en disant, puisque c'est le pape qui parle, on doit avoir un préjugé favorable. Certes, c'est le pape qui parle, mais il parle en exerçant le magistère conciliaire. Les papes et les évêques ne mériteront à nouveau la confiance des vrais catholiques que le jour où ils reconnaîtront publiquement que le Concile Vatican II ne jouit d'aucune autorité sur les consciences catholiques.